Le journal présenté par Marc Bertrand.
Bonjour à tous. Le navire de l'ONG allemande Lifeline est toujours dans l'attente ce matin au large de Malte avec 230 migrants à son bord. La marine maltaise est venue les ravitailler en nourriture hier, mais il n'y a toujours aucun pays d'Europe qui accepte de les accueillir. D'autres embarcations de migrants ont été secourues au large de l'Espagne hier. Il y a urgence, mais les pays membres de l'Union européenne doivent déjà se mettre d'accord sur une stratégie commune. Ce sera l'objet d'un mini-sommet aujourd'hui à Bruxelles et ça s'annonce très compliqué, Pierre Benazet.
Le principe d'un sommet informel est évidemment qu'aucun pays n'est obligé de participer, mais pour l'instant, la seule option qui semble rassembler l'ensemble des participants est la création de centres de tri dans les pays du Sud afin de distinguer les migrants économiques des réfugiés. Les pays concernés par la question migratoire seront tous présents pour l'après-midi à Bruxelles, même l'Italie, qu'il a tout de même fallu convaincre, mais le président du Conseil, Giuseppe Conte, a beau avoir finalement accepté de se déplacer, à l'insistance de la chancelière allemande, il a prévenu que l'Italie ferait entendre sa musique. Elle portera à Bruxelles le drapeau des riverains de la Méditerranée, comme l'Espagne, Malte ou la Grèce, qui réclament depuis plus de 10 ans une plus grande solidarité de leurs partenaires européens. À ce titre, il récuse l'idée franco-allemande d'une application stricte du règlement de Dublin, celui qui oblige les pays par lesquels les migrants entrent en Europe à porter la responsabilité de leur suivi. À l'inverse, les pays du groupe de Visegrad ont beau avoir boycotté ce mini-sommet, le chancelier autrichien a prévenu qu'il porterait leur voix, celle de l'Europe centrale, qui s'oppose fermement à l'idée d'une répartition par quota des réfugiés, même si c'est uniquement en cas de crise.
Pierre Benazet à Bruxelles pour France Culture. Et justement, Emmanuel Macron prévient, il souhaite que les pays qui ne remplissent pas leur devoir de solidarité en refusant d'accueillir des réfugiés soient sanctionnés. Le président français vise directement la Pologne et la Hongrie, mais c'est la mauvaise stratégie selon Éric Coquerel, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis.
Je crains fort que ce n'ait aucun effet sur la Hongrie de M. Orban ou les pays de l'Est. On ne peut pas, déporter le problème et la question sur les pays de l'Est. C'est-à-dire qu'il faut que les pays qui aujourd'hui respectent à peu près le droit d'asile, l'Allemagne, la France, même l'Italie jusqu'à maintenant, l'Espagne, enfin tous les pays qui sont en première ligne, la Grèce, on ait déjà au moins une homogénéité en termes du droit d'asile. On arrête avec ces politiques qui visent à laisser penser que on va expulser tous ceux qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, qui ne répondent pas stricto sensu aux définitions du droit d'asile. Et je ne crois pas qu'on puisse donner des leçons comme ça à des pays de l'Est, même si la Hongrie de M. Orban mérite ces leçons, si soi-même on n'est pas exemplaire, et la France n'est pas exemplaire. Donc c'est pour ça que le discours de M. Macron tombe un peu à plat. Comment voulez-vous donner des leçons aux autres quand vous-même vous appliquez une politique toujours plus dure vis-à-vis des migrants?
Éric Coquerel, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Au Nicaragua, les milices paramilitaires tuent au moins 5 nouveaux morts hier, dont un nourrisson quand les forces de l'ordre ont attaqué une université de la capitale, Managua. La répression a fait plus de 200 morts depuis 2 mois et le début de la contestation contre le président Daniel Ortega. En Syrie, pour la première fois depuis la signature de la trêve il y a un an, la Russie a bombardé directement des zones rebelles à Dera, dans le sud du pays. La région est déjà sous le feu de l'armée de Bachar el-Assad. 19 civils seraient morts cette semaine, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les Turcs ont commencé à voter ce matin, élections législatives et présidentielles. Recep Tayyip Erdogan a convoqué un scrutin anticipé, 1 an et demi avant la date prévue. Face à lui, Muharrem İnce, un nationaliste de 54 ans qui critique fortement la dérive autocratique du pouvoir d'Erdogan. Certaines ont tenu à exercer leurs droits dès minuit. Les Saoudiennes peuvent désormais conduire. C'est l'une des mesures emblématiques de la modernisation du pays, décidée par le jeune prince héritier Mohamed Ben Salman. Mais dans le même temps, les actions des militantes pour les droits des femmes sont violemment réprimées dans le pays. Et ce n'est qu'un des paradoxes du nouveau pouvoir saoudien. Analyse de Stéphane Lacroix, politologue spécialiste de l'Arabie Saoudite à Sciences Po Paris.
L'Arabie Saoudite est un pays compliqué, complexe, qui avant l'arrivée au pouvoir justement de ce jeune prince, était un pays où il y avait des espaces de liberté. Alors ça surprend beaucoup quand on entend ça, mais finalement, moi je parlais de paternalisme autoritaire dans la vieille Arabie Saoudite, celle d'avant 2015. Il y avait une famille royale qui était divisée, il y avait des factions, des clans, il y avait des conservateurs, des plus libéraux, il y avait des hommes économiques qui exerçaient un pouvoir, comme Walid Ben Talal, ce prince très riche dont on a beaucoup parlé quand il a été arrêté, qui possède le Georges V d'ailleurs à Paris, entre autres hôtels, etc. Donc il y avait une sorte de pluralité interne au système qui permettait de faire vivre ces espaces politiques. Aujourd'hui, on a un pouvoir qui se referme, qui se resserre autour d'un homme, un homme qui s'est autoproclamé visionnaire et modernisateur, mais l'envers de la médaille de la modernisation, c'est l'écrasement de ce qui faisait la diversité, la pluralité relative de ce système. Et donc, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour la société civile, une bonne parce qu'effectivement, elle voit aujourd'hui un certain nombre de ses demandes réalisées, une mauvaise parce que la société civile, aujourd'hui, elle est plus que jamais bâillonnée, elle participe pas à la fête.
Stéphane Lacroix, politologue aux séries, interrogé par Mathieu Laurent pour France Culture. L'Inde est en train de vivre la pire crise hydrique de son histoire, selon un rapport gouvernemental alarmant. La moitié de la population du pays vivrait dans des zones où l'eau est en train de manquer et 200 000 personnes meurent chaque année du manque d'accès à une eau de qualité. La situation se dégrade rapidement. Correspondance à New Delhi de Sébastien Farcy.
New Delhi, Bangalore, Hyderabad, en tout 21 villes indiennes comptant 100 millions d'habitants devraient avoir épuisé leur nappe phréatique dans les deux ans à venir. Cela privera d'eau les plus pauvres qui utilisent les puits locaux et obligera ces cités à puiser dans les rivières régionales utilisées pour l'agriculture. Le bétonnement acharné des villes empêche les eaux des pluies de recharger les sols et les citadins indiens n'ont pas appris à économiser cette ressource. Pour le professeur Kaji Joy, chercheur spécialisé dans l'eau au sein du centre Sopecom, il faut redéfinir la gestion de l'eau urbaine.
Les autorités ne donnent pas assez d'importance aux sources d'eau locales, comme les nappes phréatiques, les lacs, l'eau des pluies ou le recyclage des eaux usées. Et l'essentiel de l'eau urbaine vient donc de l'extérieur, alors que ça ne devrait être qu'une source secondaire. Cette gestion de l'eau doit être ouverte à la participation des universitaires et des associations qui ont une grande expérience et qui peuvent apporter de nouvelles idées pour une meilleure utilisation de l'eau.
Ce rapport public dresse pour la première fois un classement des États indiens en fonction de leur gestion des eaux. Le point positif est que ceux qui vivent déjà des situations de crise ont commencé à réagir en adoptant des politiques plus durables.
Sébastien Farcy. Encore du soleil aujourd'hui partout en France, hormis de faibles risques d'orages sur le sud-est. Il fera jusqu'à 29 degrés au sud cet après-midi.